Jean chapitre 9, à la page 695. Avant de lire le passage, je vais prier. Prions. Merci à notre bon Père Céleste pour cette parole. Merci de ce que tu ne nous as pas laissé dans les ténèbres, mais tu nous as donné cette parole qui illumine nos cœurs, qui nous montre le chemin, qui nous te révèle. Et elle nous montre demander de nous aller ce matin à voix claire. Voir Jésus en toute sa splendeur, sa beauté, sa grandeur. Et à peine nous te demander de nous aider par la même à te faire davantage confiance, à t'aimer davantage, à te suivre plus fidèlement. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Jean chapitre 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au bassin de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui !» D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Mais lui affirmait, « C'est bien moi. » Ils lui dirent donc, « Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, « Va au bassin de Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À la tour, les pharisiens lui demandaient comment il avait pu voir. Il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. » Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. » Mais d'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux ?» Il y a eu division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais avant d'avoir fait venir ses parents. Ils les interrogèrent en disant, « Est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle ? Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant ?» Ses parents leur répondirent, « Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même, il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent, « Il est assez grand, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent de nouveau, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. » Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple? Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme leur répondit, voilà qui est étonnant, vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. » Ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus. » « Et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Ainsi donc, votre péché reste. Jusqu'ici, la parole de Dieu. On revient de nos vacances. Et en vacances, on a fait un long voyage en voiture du sud des États-Unis, du Caroline du Sud, jusqu'au Grand Lac dans le nord. Et ce voyage a duré 13-14 heures. On est parti le matin, pas tellement de bonheur, on aurait dû vraiment se lever de bonheur, mais on n'a pas fait. Et ensuite, on est arrivé très tard dans la nuit. Et pour faire passer le temps, pour faire passer les kilomètres, on a écouté un livre sur CD, un audio livre. Il y avait 8 CD en tout. Et c'était un long livre qui a raconté la vie d'une détective et son assistante. Et ça s'est déroulé au Botswana, en Afrique. Et ces deux femmes, Madame Maramotswe et Madame Mamakutsi, elles discutaient, elles buvaient du thé, elles essayaient de résoudre de temps en temps un mystère, un problème. Et les dialogues étaient très lents, parfois un peu compliqués. En tout cas, très riche en culture locale. On apprenait tous sur la vie de ces deux femmes au Botswana, leur vie, la vie de leur mari, leur famille, et aussi la vie du pays, la vie politique, la vie culturelle. On se dit seulement à la fin, lors du 8e CD, il fallait vraiment avoir un long voyage, que tous les problèmes et tous les mystères étaient enfin élucidés. Et à la fin du 8e CD, il y avait des retournements de situation, il y avait des surprises. Alors, dans notre passage de ce matin, nous avons affaire à des dialogues. Il y a plein de dialogues. Il y a d'abord le dialogue entre les disciples et Jésus. Ensuite, on voit l'homme guéri avec ses voisins. Ensuite, l'homme guéri avec les juifs, les pharisiens avec les parents, les pharisiens entre eux. Et ces personnes discutent. Et parfois, elles se disputent. Au début du passage, on voit un problème. Les disciples veulent savoir qui a péché. Est-ce que c'était cet homme né aveugle ou est-ce que c'était ses parents? Et c'est seulement à la fin du passage qu'on va savoir qui sont les pécheurs. Donc ce chapitre 9 est un peu comme une œuvre littéraire bien construite, même si ce passage est bien sûr une histoire vraie. Alors la semaine dernière, on a étudié le miracle lui-même. C'est Jonathan qui a prêché sur ce passage. On a vu comment Jésus a ouvert les yeux de cet homme né aveugle. C'était un miracle extraordinaire. Mais cette semaine, on va enquêter un peu plus sur la suite, sur ce qui se passe après le miracle et le sens de ce miracle. Bien sûr, il va y avoir peut-être un peu de chevauchement entre ces deux messages. Et je vais essayer d'être plus concis que 8 CD ce matin, donc, afin de voir donc, de manière plus rapide ce qui se passe dans ce chapitre. Alors, dans un premier temps, on va voir cette œuvre étonnante, l'œuvre étonnante de Jésus. Et ensuite, on va examiner dans un deuxième et troisième temps la nature exacte de l'œuvre de Jésus, les deux aspects de son œuvre. Alors, on va commencer avec cette œuvre étonnante, surprenante. Ce qui est un peu surprenant aussi dans ce passage, c'est aussi l'absence de Jésus. Bien sûr, il est là au début. On va le voir aussi à la fin du passage. Mais pendant un long moment dans ce passage, Jésus n'est plus là. Et c'est du jamais vu en fait dans l'évangile de Jean. Dans tous les passages de l'évangile de Jean, Jésus est toujours là. Mais c'est le seul passage où Jésus est un peu absent. Mais on va voir que même quand il est absent, Jésus est bien à l'œuvre. Il fait l'œuvre de Dieu. Cette guérison montre toute la compassion de Jésus, bien sûr, mais on va voir qu'elle montre beaucoup plus que ça. Alors, au verset 3, nous lisons, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. » Et bien sûr, la semaine dernière, on a vu cette grosse œuvre, le miracle. Jésus a donné la vue physique, il a donné la vue à ses yeux qui jusque-là n'avaient jamais vu la lumière. Jésus, la lumière du monde, donne la vue physique. Et ensuite, à la fin de ce chapitre, c'est un peu le huitième CD si vous voulez, Jésus explique son œuvre. C'est au verset 39. Et là, il dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Est-ce que vous voyez comment la lumière du monde, Jésus, fait deux choses? Oui, il donne la vue, mais il aveugle aussi. C'est une œuvre bien curieuse. Lors de ce long voyage aux États-Unis, vers 11h du soir, on a rencontré du brouillard sur la route dans l'état de l'Ohio. C'était un brouillard assez dense et ça faisait un peu peur. D'autres voitures quand même allaient très vite, donc j'essaie de les suivre un peu avec les phares qui fuyaient vers l'horizon. Mais c'est vrai que le brouillard, c'est quelque chose qui nous aveugle. Et pour s'en sortir, il nous faut de la lumière, mais pas n'importe quelle lumière. Parce que si vous mettez les pleins phares dans le brouillard, qu'est-ce que vous voyez? En fait, tout devient blanc. C'est le reflet de la lumière sur le brouillard qui vous aveugle. Vous mettez la lumière, mais en fait, cette lumière est aveuglante. Oui, il faut quand même mettre des phares, mais plus bas, et puis ensuite, on voit quand même la route. Alors, Jésus est la lumière du monde, mais la lumière qu'est Jésus a deux effets, c'est ce qu'on voit dans ce passage. Elle illumine certains, les conduisant à la vie. Et cette lumière, la lumière qu'est Jésus, aveugle d'autres, les laissant dans les ténèbres du péché. Et donc ce passage où Jésus est finalement très peu présent, va nous montrer ces deux aspects de son œuvre. En fait, dans ce sens, ce passage est un voyage de la cécité à la vue pour cet homme né aveugle, et un voyage de la vue à la cécité pour d'autres. Et pour ces deux groupes, c'est une rencontre avec Jésus qui fait la différence, ou pour être plus précis, c'est une rencontre avec les paroles de Jésus, les paroles concernant Jésus qui fait la différence. Parce que oui, Jésus est absent au milieu, mais le témoignage en sa faveur, la parole le concernant, elle est bien présente dans le passage. Elle va de l'avant. C'est le témoignage concernant Jésus qui fait l'œuvre de Jésus, qui fait l'œuvre de Dieu. C'est la parole concernant Jésus qui produit ces deux effets. On le voit, ça commence avec les voisins. Au verset 8, qui parlent entre eux, ils disent, n'est-ce pas celui qui se tenait assis, qui mendiait? Et c'est l'homme guéri qui ensuite a témoigné en disant, oui, c'est bien moi. Et c'est Jésus qui l'a fait. Et ensuite, cet homme est emmené devant les pharisiens et il témoigne encore une fois en disant, oui, oui, c'est Jésus qui m'a guéri. On voit que cette parole a déclenché une division, une polémique, une discussion entre les pharisiens. Ensuite, les pharisiens appellent ses parents, les parents de cet homme guéri, qui confirment que c'est bien lui, et ça témoigne en faveur de Jésus. Et l'homme qui a été guéri témoigner de nouveau devant les pharisiens, très fâchés. Et ensuite, à la fin, nous avons la parole de Jésus lui-même. Il revient, il parle de manière directe, Jésus se dévoile, et cette parole est puissante et change tout dans la vie de cet homme. Et je pense que c'est important pour nous ici de voir que c'est la parole qui est à l'œuvre. Et que c'est la parole de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu. Car ce passage nous prépare pour la suite quand Jésus ne sera pas là. Ce passage nous prépare pour le rôle de chaque croyant, chaque témoin de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, Jésus n'est plus sur la terre. Mais nous sommes des témoins de cette lumière. Et pendant que nous sommes là en train de témoigner en faveur de la lumière, en fait, la lumière est à l'œuvre, la parole est à l'œuvre. Cette lumière, cette parole est aveuglante pour certains, mais elle est salvatrice pour d'autres. On va voir ça en plus de détails. Donc, on est à ce deuxième point avec l'homme né aveugle qui passe de la cécité à la vue. On a vu la semaine dernière donc ce miracle extraordinaire. Mais vous savez, il y a un deuxième miracle dans ce passage. Et ce passage est un peu le carnet de voyage d'un homme qui passe de la cécité spirituelle à la vue spirituelle, c'est-à-dire à la vie spirituelle. Et c'est un voyage qui se fait en plusieurs étapes. Jésus a ouvert ses yeux physiques, mais pour qu'il voie, ça va, spirituellement parlant, ça va prendre plusieurs étapes. Au verset 11, cet homme se réfère à Jésus comme l'homme qu'on appelle Jésus. Au verset 17, un peu plus loin, lorsque les pharisiens lui posent la question, « Toi, que dis-tu de lui ?» L'homme guéri a répondu, « Ah, c'est un prophète. » Et cet homme n'a pas tort, parce qu'il est bien un prophète, mais Jésus est bien plus qu'un prophète. Et lorsqu'il y a cette altercation avec les pharisiens qui s'enflamment, l'homme né aveugle avance des preuves sur la base de la preuve, sur la base du miracle. Il raisonne. Il dit au verset 33, « Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » On voit qu'il avance petit à petit, il raisonne et sa foi, si on peut parler de foi, elle est logique, sa foi, sa compréhension est en train de grandir. En tout cas, on peut dire que la foi chrétienne est une foi raisonnable, elle n'est pas simplement une foi mystique qu'on a ou qu'on n'a pas, mais elle est basée sur des faits, sur Jésus, ce qu'il a fait dans l'histoire. Et cet homme avance, mais sa foi vient en écoutant la parole de Jésus. En tout cas, de manière décisive, si on peut parler de foi, elle vient au moment où il entend la voix de Jésus. La vue spirituelle vient en écoutant la parole de Jésus. Et c'est la parole de Jésus qui change tout dans sa vie. Au verset 35, on voit cet homme qui a été chassé, Jésus revient vers lui. Il le laisse passer par la persécution, mais ensuite Jésus revient vers lui. Et Jésus lui demande, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» En fait, dans notre version, c'est vrai, c'est marqué, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Mais les meilleurs manuscrits, puis la plupart des versions françaises, mettent « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Et en fait, c'est important parce qu'on a déjà rencontré ce titre au chapitre 5, où on a vu que Jésus, le Fils de l'homme, a toute l'autorité de juger. Toute l'autorité de Dieu de donner la vie. Ce n'est pas juste un titre qui indique son humanité, mais c'est un titre qui indique sa divinité, son autorité divine. Et l'homme né aveugle répond, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et là, c'est vraiment l'amour de Jésus qui se révèle. C'est un acte de pure grâce. Jésus se révèle si bien que l'homme voit clair. Et le verset 38 raconte ce deuxième miracle. Ce miracle qui est encore plus grand que le premier miracle physique. Parce que là, au verset 38, il dit « Je crois, Seigneur. » il se prosterna devant lui. Et c'est vraiment son moment de lumière, d'illumination. Il se passe de la cécité spirituelle, réelle, profonde, destructrice, à la vue. Et en voyant, il voit Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il adore Jésus. Et en fait, c'est la seule fois dans l'évangile de Jean où on voit le mot « adorer » attribué à quelqu'un qui adore Jésus. Il se prosterne devant Jésus. Il le reconnaît comme son Seigneur, son Maître. En fait, il le reconnaît comme Dieu lui-même, comme celui qui a toute autorité sur la vie et sur la mort. Et cette réponse, la réponse de cet homme est la réponse de chaque femme, de chaque homme qui a vraiment compris le message de la Bible. C'est la seule réponse qui vaille, celle de la repentance et la foi, c'est l'adoration de Jésus. Nous l'avons vu il y a quelques semaines, l'homme de lui-même ne peut pas écouter les paroles de Jésus. Il est un prisonnier de son péché, il est dans l'esclavage. Il ne peut même pas choisir de suivre Jésus. Il faut qu'il soit libéré pour qu'il puisse suivre Jésus. Et ici, dans ce passage, on voit que l'homme, sans Dieu, sans Jésus, est aveugle. Il ne voit pas. Mais ici, dans ce passage, on voit que Dieu, dans sa miséricorde, ouvre les yeux de ceux qui sont spirituellement aveugles. Et c'est une autre image de ce miracle de la nouvelle naissance que seul Dieu peut opérer. Il faut que la solution, il faut que le salut vienne de l'extérieur. L'homme de lui-même ne peut rien. Si ce matin, vous savez que vous êtes à Jésus, dans votre cœur et dans votre vie, vous savez que vous adorez Jésus, vous aimez Jésus. C'est parce qu'un jour, Dieu vous a ouvert les yeux. Il vous a ouvert les yeux pour que vous puissiez voir Jésus et l'adorer. Il s'agit d'un miracle, un miracle de la grâce. C'est son œuvre qu'il a fait, non pas la vôtre. Et c'est pour ça que la gloire doit lui revenir à lui seul. Et ça devrait remplir nos cœurs de gratitude, de reconnaissance. Tout comme l'homme n'est aveugle, nous n'y étions pour rien, c'est Dieu qui l'a fait. Ça devrait nous rendre humbles. C'est pas nous qui avons vu Jésus, qui avons repéré Jésus, qui avons choisi Jésus, mais c'est lui qui, dans sa grâce, nous a ouvert les yeux. On doit simplement lui dire « Merci Seigneur, gloire à toi ». Et ça devrait nous encourager à répandre cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle du Sauveur du Seigneur qui sauve. Certes, on va voir dans un instant, pour certains, cette lumière est aveuglante. Mais pour d'autres, elle est salvatrice. Dieu œuvre par sa parole. Il œuvre par la parole des témoins. Et c'est à nous de parler. Et c'est à nous de témoigner. Et en même temps, c'est à nous de lui faire confiance, parce que c'est lui qui fait le travail. C'est lui qui fait cette œuvre. On doit faire ce travail, en quelque sorte, dans la dépendance de Dieu, humblement, parce qu'il n'y a que lui qui peut ouvrir les yeux. Et il souhaite le faire. On le voit bien dans ce passage. Et si ce matin, vous n'êtes pas encore sûr de si vous êtes à Jésus, vous n'avez pas encore plié les genoux devant Jésus, est-ce que je peux vous inviter à simplement crier vers Dieu, dans la dépendance, dans l'humilité, et à lui demander de vous ouvrir les yeux, de vous aider à voir Jésus, à voir Jésus tel qu'il est vraiment, voir son autorité, voir son amour, et vous permettre de l'adorer. Mais la lumière de Jésus peut aussi avoir cet effet aveuglant. Cet effet aveuglant sur ceux qui croient voir clair, mais qui ne voient pas. Et ce passage nous montre aussi le voyage dans le sens inverse. Et c'est vrai, c'est un passage, c'est un voyage bien triste. Un voyage bien ténébreux. Un voyage où la personne qui fait le voyage refuse de voir les choses en face. Refuse de voir les preuves, refuse d'écouter le témoignage concernant Jésus. L'homme né aveugle est emmené devant les pharisiens. C'est ce qu'on voit au verset 13. Et tout de suite, les pharisiens, même s'ils voient que l'homme voit, ils jugent Jésus. Ils jugent Jésus parce que Jésus a fait ce miracle le jour du sabbat. C'est le jour du repos selon les 10 commandements. Et Jésus a délibérément choisi de faire ce miracle ce jour-là. Il a souvent fait des miracles le jour du sabbat. Rien n'est laissé au hasard. Jésus l'a fait pour les provoquer. Jésus l'a fait pour leur dire quelque chose parce que ce jour du sabbat, c'est un jour du repos. Le repos de l'Éternel. Le repos du salut. Le repos restaurateur de Dieu. En fait, Jésus est en train de dire que c'est lui qui accomplit cette loi, qui donne le salut, qui est habilité, c'est lui qui est habilité à donner ce repos. Nous avons chanté tout à l'heure avec nos âmes peuvent se reposer en Dieu. Dieu peut nous donner ce repos dont nous avons besoin. Mais certains pharisiens refusent de voir au-delà du fait que Jésus l'a fait le jour du sabbat. Ils ont une vision religieuse, légaliste de la loi. Ils utilisent la loi pour condamner Jésus, celui qui accomplit la loi. Selon eux, Jésus commettait un péché en restaurant cet homme, en restaurant la vue de cet homme. Ils ont utilisé un peu la religion pour refuser de voir clair. Ça les aveuglait. Mais d'autres ont dit, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et c'est ce que l'homme né aveugle dit par la suite aussi, verset 30. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Et quand on y pense, sa logique est bien claire, bien limpide. Et bien sûr, le miracle en lui-même est bien convaincant. Mais vous savez, les hommes et les femmes ne sont que rarement purement logique, purement cartésien ou scientifique. Et face au témoignage de plus en plus clair, de plus en plus logique de cet homme né aveugle, les pharisiens répondent de manière émotionnelle. Et on voit ce qu'ils ont dans leur cœur. Verset 34. Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Ils le chassèrent. Est-ce que vous voyez comment c'est la fierté ou l'orgueil qui parle. Ils ont ces propos dédaigneux. Ils sont touchés au vif. C'est vraiment une réponse viscérale. Ils sont touchés parce que leur place dans la société est remise en cause. Ils refusent de voir les preuves. Et le témoignage concernant Jésus a parfois cet effet aveuglant. Il brille, mais on s'accroche. On s'accroche à ce brouillard orgueilleux, à ce péché qui est dans nos cœurs. On refuse de voir notre besoin de Jésus. On ne voit pas la beauté d'un sauveur qui peut nous sauver. L'évangile de Jésus-Christ suscite parfois une réponse humble et parfois cette réaction viscérale, offusquée, orgueilleuse. La bonne nouvelle d'un Seigneur, le chef de l'univers qui sauve, suscite chez bien des hommes cette attitude orgueilleuse, ce mépris. Je n'ai pas besoin d'un sauveur. Ou je suis un homme intelligent, éclairé, moderne. Ou je suis déjà un homme bien, je ne suis pas un pécheur. Ou bien, qui êtes-vous pour me dire ça? Vous êtes un obscurantiste, encore au Moyen-Âge. Et c'est vrai, en tant que croyant, je pense qu'on redoute ce genre de réponse. Ça nous fait un peu peur. On est là au bureau et on redoute ce genre d'accusation. Et sans doute cet homme aussi, ça a dû être dur pour lui d'entendre de telles choses dans les bouches des responsables, des personnes bien placées, bien respectées des gens. On ne maîtrise pas vraiment la réponse de ceux avec qui on partage l'Évangile. Et parfois, on aimerait être si convaincant que tout le monde va dire « Oui, on est bien intelligent et bien sûr, c'est bien ça. Mais ce n'est pas finalement nos efforts qui vont les convaincre de voir clair. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut les convaincre de voir clair, qui peut ouvrir leurs yeux. Il n'y a que Dieu qui peut le faire par l'esprit. Ceux qui refusent de voir clair sont spirituellement aveugles. Ils sont bien aveugles. On le voit à la fin de ce passage. Il y a ce retournement de situation, c'est un peu le huitième CD. Quelques pharisiens, à la fin, qui disent à Jésus, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Et Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Ainsi donc, votre péché reste. » Et si vous avez posé cette question au début, qui sont les pécheurs? Et on voit à la fin du passage, c'est ceux qui croient voir, mais qui ne voient pas. Ceux qui s'entêtent et qui refusent de voir Jésus, refusent de voir l'épreuve. Ils demeurent dans leur péché. Mais comment est-ce que nous, on réagit face à de telles réponses orgueilleuses? On pourrait répondre par l'indignation. Mais non, parce que si nous on voit clair, c'est simplement parce que Jésus nous a ouvert les yeux par grâce. Ce n'est pas en vertu de notre intelligence. C'est simplement sa grâce. Et ça devrait nous pousser à la compassion et à la prière. On devrait prier pour ceux qui refusent l'Évangile. Et demander à Dieu, dans sa compassion, par pitié, de leur ouvrir les yeux. Ils ont besoin de ce miracle de la grâce. Alors on voit aussi une autre réponse dans ce passage. Ce n'est pas la réponse orgueilleuse des pharisiens. Les pharisiens qui veulent garder leur place, mais c'est la réponse de la peur. Et c'est la réponse des parents de cet homme né aveugle. Est-ce que vous avez vu ça dans le passage? Ses parents avaient peur des Juifs. Ils avaient peur d'être chassés de la synagogue. Et je pense que c'est une crainte tout à fait compréhensible. C'est dur d'être exclu sur le plan social. Et peut-être ce matin, vous avez aussi un peu peur. Vous êtes content d'être là. Peut-être vous êtes content d'enquêter sur la foi chrétienne. Mais en même temps, au fond de vous-même, vous avez un peu peur. Oui, le message de Jésus est bien attirant. Mais les exigences de Jésus sont bien fortes. Et en plus, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que ma famille va penser de moi si je mets ma confiance en Jésus? Qu'est-ce que mes collègues vont me dire demain si je dis que oui, je crois en Jésus? Est-ce qu'ils vont penser que je fais partie d'une secte ou que je suis faible ou naïf? Ou est-ce que je vais être emmené à, est-ce que je vais être conduit à faire des choix radicaux, à changer de comportement? Et parfois on peut se dire oui, ah, peut-être il vaut mieux ne pas voir clair ou juste rester avec les autres et puis ne pas sortir du lot, ne pas faire une décision. Mais vous savez, ce Jésus ne vous veut pas du mal, mais que du bien. Et c'est ce qu'on voit dans ce passage. Cet homme a été guéri, oui, physiquement dans son cas, mais plus que ça, spirituellement aussi, il a la vie. Jésus lui fait du bien. Et du coup, il connaît son Créateur. Cet homme connaît son juge, et son Créateur et son juge est également le Sauveur qu'il aime, qui revient pour prendre soin de lui. Si c'est votre cas, si vous avez un peu peur de mettre votre confiance en Jésus, est-ce que je peux vous demander de simplement vous adresser à Dieu dans la prière et de vous aider à ne pas avoir peur, à vous aider à voir clair, à voir toute la beauté, toute la bonté de Jésus. Et c'est cette bonté-là qui va vous attirer vers lui. L'homme guéri l'a vécu, et je pense que c'est pour ça qu'il a pu supporter ses attaques. Il avait rencontré l'homme qui lui avait fait du bien, qui l'avait guéri, mais aussi qui l'avait sauvé, spirituellement parlant. Alors Jésus est à l'œuvre aujourd'hui, sa parole n'est pas enchaînée, sa lumière brille encore, elle est puissante, elle ne revient jamais sans effet, elle a ce double effet. C'est un jugement, mais Jésus dit, et je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Et ce matin, ce passage nous invite, nous, à l'humilité. Jésus, dans sa grâce, nous a ouvert les yeux. Et on peut l'adorer, on peut lui remercier pour ça. Et on peut aussi avoir cette confiance que lorsqu'on témoigne, lorsqu'on partage la parole, cette parole ne va pas revenir sans effet. Cette lumière va aller de l'avant. Elle va avoir ces deux effets. Un effet salvateur, aussi un effet de jugement, c'est vrai. Mais on peut compter sur Dieu pour faire son travail, son œuvre. Et on peut prier Dieu pour nos voisins, pour ceux avec qui on partage l'Évangile, que Dieu, par grâce, leur ouvre les yeux. Je vous invite à la prière. Prions. Merci à notre bon Père Céleste pour la lumière qui est Jésus. Merci, merci de ce qu'il a brillé. Il est venu dans ce monde pour briller. Et c'est vrai que les siens ne l'ont pas accueilli. Mais par grâce, par miracle, certains l'ont bien accueilli. Et Père, c'est notre expérience aussi, l'expérience de beaucoup ici ce matin. Merci de nous avoir ouvert les yeux. C'est pas parce que nous sommes, c'est pas en vertu de notre intelligence, mais c'est juste le miracle de la grâce. Merci de nous avoir fait voir Jésus, sa bonté, sa gloire. Et Père, c'est notre désir que nos amis, nos collègues, nos voisins te voient et mettent la confiance en toi. Adore ton Fils. Et Père, nous allons te demander d'être à l'œuvre par notre témoignage, même cette semaine. Et par grâce, nous prions, Seigneur, nous te prions d'ouvrir les yeux de nos voisins, de nos collègues, pour qu'ils puissent voir. Et nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen.